Je vais le tuer, je vais le tuer. Voilà ce que cet homme, ce jeune homme colombien, pensait très fort en voyageant dans son vieux camion pour aller tuer son pire ennemi. Et puis en cours de route, comme la ville où se situait cet ennemi était assez loin, il s'arrêta à un hôtel. Et il décida d'y passer la nuit. Mais ne pouvant pas y dormir, ne pouvant pas trouver le sommeil parce qu'il y avait cette pensée qui le martelait dans sa tête, « Je vais le tuer, je vais le tuer », il décida de lire pour passer le temps. Et il trouva un livre aux côtés de son lit qu'il ne connaissait pas. Il le prit et commença à lire toute la nuit. Le lendemain matin, lorsque le personnel de chambre rentrait dans cette chambre-là pour faire le ménage, elle trouva sur le chevet à côté de son lit un pistolet. Et puis le Nouveau Testament Gédéon ouvert sur le livre de Romains, où il y avait un petit mot marqué à côté, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et à côté de la Bible, il y avait un petit mot qui disait encore, « Ce livre a sauvé deux vies, ma vie et celle de mon pire ennemi. » Je vous emmène maintenant aux États-Unis faire la connaissance de Sandy. Sandy a grandi dans une famille qui pratiquait l'occultisme. Ainsi, depuis toute petite, elle a été enseignée à mépriser les choses de Dieu. En plus, son père l'a initiée à la drogue. Donc elle pratiquait, elle a grandi comme ça, méprisant les choses de Dieu et a pratiqué des choses perverses. Sandy fut très vite écœurée dans son adolescence, écœurée par cette vie-là, et elle a décidé de partir de la maison pour essayer de vivre une nouvelle vie. À l'âge de 17 ans, elle décida de se marier pour recommencer cette nouvelle vie. Mais de peur de représailles de son père, Sandy n'a pas abandonné ses liens occultes dont elle avait été enseignée durant sa jeunesse. Et dans cette ville de Dallas, elle a pris contact secrètement, à l'insu de son mari, avec des hauts prêtres occultes. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Le foyer de Sandy, son mariage, commença à s'effriter et quelques années après, Sandy divorça. Ses enfants sont partis avec son mari, vu qu'elle pratiquait des choses quelquefois perverses, elle n'a pas eu la garde de ses enfants. Cela n'a pas empêché Sandy de continuer à pratiquer l'occultisme et elle se remaria pour essayer de refaire encore une fois une autre vie. Et ce mariage, encore une fois, sombra dans le divorce, dans la séparation. Et encore une fois, ses enfants sont partis, elle n'a pas eu la garde de ses enfants. Alors Sandy tomba dans une grave dépression. Elle ne trouva pas une solution. En plus, son père lui avait dit qu'il n'y avait aucune solution, qu'elle était obligée de continuer dans l'occultisme parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, aucune solution. Sandy décida donc de se suicider. Elle rentra dans sa voiture, en sanglots, en larmes, et sans y faire attention, elle s'est assise sur un petit livre comme celui-ci. Comment est-il arrivé sur le siège de sa voiture? Elle ne le sait pas encore aujourd'hui. Toujours est-il qu'au milieu de ses larmes, elle s'est rendue compte qu'elle était assise sur ce petit livre-là. Alors elle commença à le feuilleter, quelques pages par-ci par-là, et à la fin, elle tomba sur la prière de repentance qu'il y a à la fin de ces nouveaux Gédéon. Et là, elle comprit que Jésus l'aimait. Elle comprit qu'elle était pécheresse. Elle comprit qu'il y avait la solution et que la solution était en Jésus-Christ. Ce jour-là, Sandy a commencé une réelle nouvelle vie et est devenue une enfant de lumière. Nous allons maintenant en Inde. Je vais vous parler de Raja Singh. Raja Singh aussi, une enfance très difficile. Très jeune, il perdit son père qui s'est suicidé par pendaison. Et puis, comme s'il y avait une malédiction sur cette famille, il y a plusieurs membres de sa famille qui se suicidèrent aussi suite à des problèmes divers. Lui aussi a été touché par différentes difficultés. Alors il s'est dit, je vais faire comme mon père, je vais aller me pendre. Et en plus, dans le même endroit, dans la même chambre où son père s'était pendu. Mais au moment où Raja Singh allait mettre son plan à exécution, il trouva sur une table un petit livre bleu qui a interpellé son attention. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit livre? Il s'approcha et il reconnut ce petit Nouveau Testament qu'il avait reçu lorsqu'il était au collège. Il s'est dit, mais ce livre-là, depuis le temps que je ne l'ai jamais ouvert. Et il va commencer à le lire. Il va se dire, je vais exécuter mon suicide à plus tard. Et il va commencer à lire ce petit livre-là, histoire de dire, de ne pas mourir sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et je dis gloire à Dieu, parce que ce plus tard n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, Raja Singh apporte la bénédiction au sein de sa famille. Alors, qui sont les Gédéons? Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et les Gédéons, l'Association internationale des Gédéons sont composées d'hommes, de femmes, quelquefois donc leurs épouses, qu'on appelle les auxiliaires, qui sont issus de différentes églises protestantes ou évangéliques en France et de par le monde, dont le seul et unique but est de distribuer gratuitement la parole de Dieu pour amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ et aussi de témoigner personnellement de ce que Dieu a fait dans leur cœur. Oui, semer de façon abondante. Voilà là, ce que je dirais entre guillemets, la politique de l'association. Alors certes, vous connaissez tous cette parabole du semeur. L'un grain tombe dans la bonne terre, l'autre à côté du chemin, certains sur des chemins rocailleux. Cela ne nous regarde pas, c'est l'affaire de Dieu. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est de semer et de semer de façon abondante. Regardez plutôt ce témoignage, écoutez plutôt ce témoignage, Eugène de Reims. Eugène est d'origine d'ivoirienne, père musulman, mère athée fétichiste. Il a eu une éducation mi-musulmane et donc aussi avec une petite amulette, avec une éducation fétichiste. Mais en plus de ça, Eugène a été enseigné dans une église catholique, une église privée, et durant son enfance, donc, il a reçu aussi un enseignement catholique. Et en plus, Eugène a fait sa petite communion, sa communion solennelle à l'âge de 11-12 ans. Bref, au lieu de s'attacher aux choses de Dieu, malgré tous ces enseignements-là, Eugène rejeta complètement les choses de Dieu, l'enseignement de Dieu, pour s'adonner au plaisir du monde. Vers 1990, après avoir perdu son bébé de 15 mois, s'être séparé de sa femme et perdu son emploi, Eugène se tourna vers les faux dieux de ses pères, vers les marabouts, mais aussi vers la religion chrétienne dont il avait été enseigné lorsqu'il était à l'école, croyant qu'il avait sans doute beaucoup péché pour être puni ainsi de la sorte. Ce n'est qu'après 4 ans de recherche qu'Eugène reçut un petit prospectus d'une église qui préparait une évangélisation avec une intervention par satellite de Billy Graham. Eugène reçut cette prospectus et décida d'aller dans cette église-là pour voir cette intervention de Billy Graham retransmise par satellite. Là, le pasteur fit un appel et Eugène décida de se lever. Pourquoi pas ? Après tout, la prière, ça peut me faire que du bien. Et Eugène s'est approché et a répondu à l'appel de ce pasteur, mais sans trop y croire. Et puis Eugène est parti de cette église. Quelques mois ont passé et Eugène décida d'aller voir un ami qui se situait pas loin d'une université, près de Reims, et dont les Gédéons avaient fait la distribution le matin même. Eugène rentra dans cet immeuble de son ami et sonnant à son ami, celui-ci n'était pas là, et il décida de l'attendre dans la cage d'escalier de son immeuble. Et c'est là que Eugène découvrit, non pas un Nouveau Testament comme celui-ci, mais des pages de ce Nouveau Testament, parce que ce Nouveau Testament était complètement déchiré. Qu'une seule page, Eugène prit qu'une seule page par terre pour voir ce que c'était, et il tomba sur l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 17. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Eugène comprit que c'était lui qui avait le cœur brisé. Il fit le rapprochement entre ce qu'il avait entendu à l'église, entre ce qu'il venait de lire, et aujourd'hui Eugène habite Troyes et il est membre de l'église de cette ville. Alors les Gédéons, c'est vrai, s'ils distribuent en grande quantité devant les lycées, les universités, devant les écoles d'infirmières aussi, aidés de nos épouses et nos auxiliaires, quelquefois, ils distribuent aussi dans des lieux très reculés, comme en Norvège, où ce Gédéon eut à cœur, poussé par l'Esprit de Dieu, d'aller dans une île qui s'appelle Ingøy, en Norvège, où là-bas, il y avait une école. Mais cette école a une particularité, c'est qu'il n'y a seulement 3 élèves, et cette île est à une journée de bateau. Mais il décida d'y aller, poussé par l'Esprit de Dieu. Et arrivé à cette île, évidemment, la distribution a été très rapide à ses 3 élèves et il distribuera 3 Nouveaux Testaments comme celui-ci. Et puis, l'institutrice en reçut aussi un. Et comme il avait du temps devant lui avant l'heure de retour du bateau pour rentrer sur la terre de Norvège, il accepta l'invitation de cette maîtresse d'école à prendre le café et à discuter. Ce qui permit à ce Gédéon de témoigner de sa foi et de lui parler du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'un des petits garçons qui reçut un Nouveau Testament comme celui-ci frappa à la porte du bureau de l'institutrice. Il rentra en larmes et dit : Je veux seulement vous remercier d'être venu. Je pensais à Jésus pendant ces derniers jours, et quand j'ai vu que vous aviez fait tout ce chemin juste pour nous donner à nous trois un Nouveau Testament, j'ai pensé : Jésus, tu les as envoyés là, je veux t'appartenir. Mais gloire à Dieu parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Cette institutrice aussi a reçu le Seigneur dans son cœur. Lorsque ces gens ont reparti sous la pluie sur ce bateau, il avait le cœur joyeux. À Dieu soit toute la gloire. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller, des endroits où nous ne pouvons pas distribuer, comme les bases militaires, les casernes militaires, les prisons, ou quelquefois même sur les théâtres d'opérations militaires. Alors là, nous faisons confiance aux aumôniers et nous donnons aux aumôniers. Et je vais vous parler de Jason Smith, rebelle contre Dieu. Pourtant, Jason Smith grandit à l'école du dimanche. Ses parents étaient chrétiens, mais il refusa, il rejeta, rempli de haine contre Dieu, ne voulut pas entendre parler de cela. Et il s'engagea dans le corps des Marines américains, en plein durant la deuxième guerre d'Irak. Et bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que son unité soit envoyée à Bagdad, en Irak. Et c'est là, j'allais dire la veille de l'offensive de Fallujah, le 31 décembre 2004, que Jason Smith trouva la mort. Ce que je vous dirai après, c'est le courrier qui a fait retour à ses parents. Courrier dont la veille de cette offensive, sanglante offensive de Fallujah, Jason Smith avait écrit à ses parents et ses parents l'ont reçu 2 mois après. Je vous lis. Cette lettre indiquait que Jason Smith a trouvé tout le réconfort au travers de ce Nouveau Testament qu'il a reçu lors de son incorporation dans l'armée. C'est d'office, ça fait partie du pactage militaire, on leur donne un casque, un fusil, mais aussi dans leur pactage, ils ont un Nouveau Testament Gédéon comme celui-ci, automatiquement. Et alors qu'il refusait au départ, Jason Smith, lorsqu'il était en Irak, commença à le lire petit à petit. Et Jason Smith a été touché dans son cœur. Et la veille de l'offensive de Fallujah s'est passée et retransmise aux actualités. Il y a des amis de Londres, peut-être ils l'ont vu sur BBC. Et il y avait les aumôniers qui étaient là-bas, ont gonflé des canaux pneumatiques et ont baptisé une douzaine de Marines avant cette offensive. Jason Smith faisait partie de cela. Robert, un criminel de Toul, dans la prison de Toul. Là aussi, un témoignage qui nous a été retransmis par un aumônier protestant. Robert a été condamné à 15 ans de prison ferme parce qu'il avait commis des meurtres. Même dans cette prison de Toul, c'était un détenu irréductible dont les gardiens avaient peur, dont les autres détenus avaient peur aussi. C'était le petit Caïd. Il avait son petit réseau à l'intérieur de cette prison. Il aimait prendre les Nouveaux Testaments qu'on distribuait, non pas pour les lire, mais vu la qualité du papier, il se faisait du papier à cigarette pour fumer. Et puis un jour, avant de lire, avant de déchirer une page, comme à l'accoutumée, pour faire sa cigarette, Robert tomba sur le livre des Actes au chapitre 9, un verset qui l'a interpellé. « Pourquoi me persécutes-tu ? » Robert était un peu déstabilisé avant de rouler cette feuille-là. Et ça l'a travaillé jusqu'à la prochaine visite de cet aumônier. Et il allait le trouver et il lui a posé cette question à cet aumônier. « Est-ce que je t'offense quelque part dans ma façon de faire ?» Et il lui a raconté ce qui lui est arrivé avant de lire ce verset qu'il a interpellé. « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et l'aumônier a de suite compris et lui a dit « Mais ce n'est pas moi que tu offenses, mais c'est Dieu. » Lorsque cet aumônier a dit cela, Robert a eu une crainte soudaine, une terrible peur et il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé à ce que cet aumônier prie pour lui. Avec cet aumônier, ils ont prié. Et aujourd'hui, Robert est toujours en prison, mais est devenu un détenu modèle. Aujourd'hui, Robert demande des Nouveaux Testaments, mais ce n'est plus pour les fumer, c'est pour le lire et les distribuer à ses camarades. Alors, quelques chiffres concernant l'Association internationale des Gédéons. Cette association existe depuis 1899 et a commencé aux États-Unis avec seulement 3 membres. Des représentants de commerce. Aujourd'hui, nous sommes plus de 260 000 Gédéons répartis dans 180 pays. Depuis son existence, depuis 1899, L'association a pu distribuer et placer plus de 1 milliard de Nouveaux Testaments, traduits dans 82 langues, et se distribuer partout dans le monde. En France, il y a actuellement 50 groupes Gédéon répartis du nord au sud, l'est à l'ouest, un peu partout. Le groupe de Lille, mon frère Léo nous en dit un petit peu, il y a 11 Gédéon et 9 auxiliaires pour couvrir toute la région lilloise. Aussi, durant ces 4 années, le groupe de Lille a pu semer la parole de Dieu dans les vies de 200 détenus dans la prison de Loos, par le biais des aumôniers. Dans la vie de 357 élèves, infirmiers à l'école d'infirmières de Ambroise-Paré. Dans le cœur et dans la vie de 26 120 élèves ou étudiants de lycée, université de Lille et de ses environs comme Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, L'Homme, hein, pour ne citer qu'elle. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu passer 1452 Nouveaux Testaments dans les chambres d'hôtel, les maisons de retraite et dans les milieux hospitaliers aussi, avec l'aide des auxiliaires. Alors je ne vous dis pas tous ces chiffres pour vous épater, vous en mettre plein la vue, loin de là. Loin de là notre idée de nous glorifier. Mais je vous dis ces chiffres tout simplement pour prier, parce que ce sont des graines qui ont été semées, et pour que ces graines-là puissent porter du fruit à la gloire de Dieu. Pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Parce que l'Association internationale des Gédéon, bien qu'elle se veuille indépendante de toute dénomination protestante, de toute dénomination évangélique, est un prolongement missionnaire de l'Église, une complémentarité de l'Église. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que tous nos membres, Gédéon comme auxiliaire, sont issus d'Églises, de différentes Églises, de différentes dénominations. La deuxième, c'est que nous semons. Nous semons, non pas de façon parallèle, non pas pour nous concurrencer, mais dans des endroits où l'Église ne peut pas aller. Nous semons, le Seigneur fait croître, et l'Église récolte. Comme ce témoignage, par exemple, ces deux témoignages. Je vais vous parler de Gary. Gary en Floride, qui, lorsqu'il était au CM1, une école primaire, avait une institutrice qui, tous les jours, avait la Bible sur le coin de son bureau. Et tous les jours, elle faisait, bien sûr, le salut au drapeau américain et lisait un passage de la Bible. Et généralement, le passage de la Bible, c'était Jean, chapitre 3, verset 16. Et ensuite, elle terminait la prière avant de commencer l'école. Mais un jour, l'institutrice rentra en classe, l'air triste, car elle n'avait plus le droit d'avoir la Bible sur le coin de son bureau. « Mais, dit-elle d'un ton décidé, si je n'ai plus le droit d'avoir la Bible sur le coin de mon bureau, de vous lire un passage, j'ai le droit de vous partager une pensée. » Et la pensée du jour, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et chaque jour, c'était la pensée, Jean, chapitre 3, verset 16. Paradoxalement, lorsque on lui a interdit la maîtresse de mettre la Bible sur son bureau, des Gédéons sont venus dans cette classe et ont distribué un à un des Nouveaux Testaments comme celui-ci à chaque élève. Gary prit le sien, le mit dans sa commode, sans plus. Et Gary grandit. 8 ans plus tard, lorsque Gary était dans sa chambre, allongé sur son lit, en train de compter les nombreux jours d'absence de lycée liés à l'emprise de l'alcool, liés à l'emprise de la drogue, il repensa à ce Nouveau Testament Gédéon, qui n'avait pas bougé du tiroir de la commode dans lequel il l'avait mis 8 ans auparavant. Et il décida d'aller le prendre. Et le seul passage qu'il connaissait, c'était Jean, chapitre 3, verset 16. Alors, il chercha Jean, chapitre 3, verset 16, et il le lut. Mais ce coup-ci, Gary continua un peu plus loin, le verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » En lisant cela, il prit conscience que Dieu ne le condamnait pas, mais qu'il l'aimait. Alors ce jour-là, Gary eut sa vie transformée dans sa chambre, et il sentit qu'il devait fréquenter une église. C'est ce qui fit le dimanche même qui suivait. Il alla dans une église, habillé en hippie, cheveux longs, barbe longue. Il est rentré dans cette église. Et puis, il a vu ce pasteur arriver, lui faire une accolade et lui souhaiter la bienvenue. C'est ce qui a encouragé Gary. Il est venu se mettre dans les premiers rangs. Et aujourd'hui, Gary a le cœur transformé par Jésus. Aujourd'hui, Gary fréquente une église. Je cite ces mots. Le gouvernement a enlevé la Bible du bureau de mon institutrice. Un Gédéon en a placé une dans ma main. et un pasteur a mis son bras sur mon épaule. C'est un mariage qui s'est fait dans le ciel. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis pressé, dit cette jeune musulmane à la sortie d'un lycée de Toulon, de chez nous. Malgré ça, Gédéon lui tendait ce Nouveau Testament. Automatiquement, par réflexe, cette jeune musulmane le prit en rentrant dans le bus. Quelques secondes, ça a duré. Et puis, intriguée par ce qu'elle avait pris, une fois arrivée chez elle, elle commença à le lire. Elle n'y comprenait rien. Elle le lisait et elle n'y comprenait toujours rien. Jusqu'au moment où elle est tombée sur le passage de Matthieu, chapitre 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » À partir de ce moment-là, elle commença à rechercher où était Dieu, où était la vérité. Elle n'y comprenait toujours rien dans la lecture. Mais plus elle lisait, plus elle était convaincue que Dieu existait. Et ça a duré 8 années de recherche comme ça. Elle lisait, elle comprenait toujours rien, mais elle savait que Dieu existait, elle savait que Dieu était quelque part. Et puis un jour, elle eut des nouvelles de son cousin, qui habitait le nord, dans la région de Lille. Ce cousin-là, la dernière fois qu'elle avait eu des nouvelles, la dernière fois que ce cousin était descendu à Toulon, il était dans un état dépressif. Et là, lorsque son cousin est revenu à Toulon la voir, elle a vu ce cousin transformé, rayonné, qui parlait de Jésus. Alors, méfiante au début, lorsqu'elle a écouté le témoignage de son cousin, lorsque ce cousin parlait de Jésus, lorsque son cousin parlait de la Bible, c'est à ce moment-là qu'elle fit le rapprochement entre tout ce qu'elle avait lu dans ce Nouveau Testament et qu'elle ne comprenait pas, et c'est ce qu'elle voyait au travers de son cousin. Alors, c'est là qu'elle accepta l'invitation de ce cousin à aller dans une église à Toulon. Et aujourd'hui, cette sœur, Fatia, est mariée, 2 enfants, et fréquente une église dans la banlieue de Toulon. Alors vous pouvez nous aider, vous aussi, et participer à l'œuvre du Seigneur. Premièrement, par la prière. Pour la prière, pour que le Seigneur nous ouvre les portes des hôpitaux, pour que le Seigneur nous ouvre les portes des grandes chaînes hôtelières comme le groupe Accor. Dans certains pays, comme dans les pays anglo-saxons, les Gédéons peuvent rentrer facilement dans les hôpitaux. Dans certains pays, comme dans les pays anglo-saxons et européens limitrophes, les hôtels n'ouvrent pas sans qu'il y ait des Bibles Gédéon dans les chambres d'hôtel. Ce sont les hôteliers qui nous contactent. Et on nous dit qu'en France, les mêmes chaînes hôtelières en France, ce n'est pas possible. Mais par la prière. Regardez ce que le groupe d'Oklahoma, aux États-Unis, pendant 14 années, une directrice hospitalière ferma la porte aux Gédéons. Pendant 14 années, le groupe d'Oklahoma, des Gédéons et d'auxiliaires d'Oklahoma, avec les églises des environs, ont prié pendant 14 années, jusqu'au jour où la directrice a dit « Venez à cet hôpital ». Elle était un peu méfiante. Alors elle les a suivis, voir avec comment ça se passait, les distributions. Ils distribuaient des Nouveaux Testaments blancs comme celui-ci aux infirmières, mais aussi dans les chambres des malades des Nouveaux Testaments. Et puis cette directrice a été rassurée. Le Seigneur a béni, il y a eu une distribution abondante, mais plus que cela, cette directrice, après, à la fin, a attendu le groupe de Gédéon et a dit « Voilà encore la liste des autres endroits où vous pouvez aller et je vous donne l'autorisation d'y aller. » Et puis, tout près, j'allais dire peut-être de chez nous, en Suisse, un groupe de Gédéon de Lausanne, qui avec l'église, les églises environnantes, ont prié pendant 20 ans pour que la chaîne d'hôtels Mercure, que vous connaissez bien, qui fait partie du groupe Accor, pendant 20 ans, toutes ces chaînes hôtelières, Mercure, Hôtel Ibis, fermaient les portes à Genève. Et puis un jour, ce Seigneur a béni. C'est le vice-président, le directeur général du groupe Accor, qui a téléphoné lui-même au vice-président du groupe de Lausanne pour lui dire « Venez distribuer, non pas dans les hôtels de Lausanne, mais de toute la Suisse, dans notre chaîne. » Parce que des clients ont demandé à ce qu'il y ait des Nouveaux Testaments dans nos chambres. Alors, moi je veux croire que ce qui est possible dans nos pays limitrophes, ce qui est possible dans le pays anglo-saxon, Dieu peut le faire aussi dans notre pays de France. Vous pouvez y participer. Vous savez, c'est bientôt les vacances. Et lorsque vous allez dans des hôtels, il y a toujours la petite fiche, vos suggestions. Qu'est-ce qui serait bien de marquer ? C'est dommage. J'étais bien accueilli, j'étais très bien dans vos hôtels, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas la parole de Dieu. À Toulon, nous avons mis pendant longtemps, des années, des Nouveaux Testaments à l'hôtel Holiday Inn. Et un jour, parce que simplement 2-3 clients ont dit « c'est inadmissible d'avoir des Bibles dans nos chambres d'hôtel », ils nous ont téléphoné, ils ont dit « venez chercher vos Bibles, sinon on les met à la poubelle ». Regardez le paradoxe. À Paris, hôtel, un grand hôtel Mercure du groupe Accor, 500 chambres, simplement parce que 3 chrétiens ont rempli la petite note, ce serait bien qu'il y ait des Nouveaux Testaments dans vos chambres. Le directeur de cet hôtel a téléphoné au Gédéon, venez nous placer des chambres, simplement parce que 3 frères et sœurs ont eu le courage. Je pense que c'est important d'affirmer notre foi, parce que les gens n'hésitent pas à le dire justement à leur mécontentement. Les hôteliers aussi ont des batailles à ce sujet-là. Alors merci, merci pour votre prière dans ces portes qui nous restent fermées. Deuxièmement, vous pouvez nous aider, et là, si le Seigneur vous le met à cœur, si bien sûr votre pasteur vous y autorise, en devenant vous-même Gédéon. Et pourquoi pas, si vous êtes en couple, aussi auxiliaire. Vous l'avez entendu, Léo l'a dit, 11 Gédéons, 8 auxiliaires pour couvrir toute cette région de l'île. Certes, il y a eu 28 129 Nouveaux Testaments qui ont été distribués, ça peut paraître, ça fait dire « waouh, c'est super !» Mais c'est rien comparé aux 2 577 492 habitants de votre département. Même pas 1%, même pas 1%. La tâche est grande. Nous avons besoin de bras, c'est inévitable. Nous avons besoin de bras pour distribuer partout. Je vais vous raconter simplement ce témoignage qui peut sourire au début à Marseille, dans un cabinet de dentiste. Une personne qui, chaque fois qu'elle prenait rendez-vous avec ce dentiste-là, laissait passer les autres devant. Et le dentiste, lorsqu'il arrivait à ce patient, disait « Monsieur, c'est votre tour. Allez-y, allez-y. » Qui disait « Allez-y, allez-y. » Alors, à un moment, le dentiste interpellé, dit « Mais quelle littérature il y a de formidable dans ma salle d'attente !» Et ce patient de dire, j'ai trouvé ce Nouveau Testament-là dans votre salle d'attente depuis les premiers rendez-vous et chaque fois que je viens, je le lis et je veux essayer de le terminer avant que mes rendez-vous terminent. Ça peut paraître, on sourit, c'est vrai, on sourit, mais d'un côté, je me dis, Seigneur, cette personne-là, soit elle n'a pas envie ou elle n'a pas été encore en contact avec la parole de Dieu parce que soit elle ne veut pas l'acheter ou parce que, pour une raison X ou Y, on n'a pas su encore distribuer, semer en abondance pour que tout le monde puisse l'avoir. Troisièmement, vous pouvez nous aider, et là, si le Seigneur vous le met à cœur, par vos dons. Un Nouveau Testament comme celui-ci coûte 1 euro, 1,20 euro, une canette de Coca-Cola. Et un gros comme celui-ci, à peu près 3 euros. Certes, nous distribuons gratuitement, mais cela a un coût. Et là aussi, sachez que depuis plus d'un siècle, cette association ne vit que par des dons, que par le soutien des églises, que par les dons que les Gédéons font ou par des amis. Alors deux derniers témoignages avant de terminer pour montrer que réellement le Seigneur est bon et tout puissant. Vous parlez de Robert qui habitait Londres dans un petit appartement. Il vivait sa vie tranquille jusqu'au jour où il reçut un coup de fil de sa maman. « Ton frère est devenu tout bizarre. Il m'a téléphoné hier en disant qu'il m'aimait et qu'il était désolé pour toutes ses fautes et ses bêtises du passé. Après, il me disait qu'il est devenu chrétien. Je ne reconnais plus là le comportement habituel de ton frère, n'est-ce pas ?» Alors Robert, lui aussi, s'inquiéta pour son frère et décida de lui téléphoner et de l'inviter à venir le rencontrer afin de le remettre dans le droit chemin. Cependant, lorsque son frère le rencontra, c'est lui plutôt qui l'interpella. « Si tu veux me convaincre à renoncer à la foi, dit-il, il vaut mieux que tu commences toi-même à lire la Bible avant pour mieux savoir de quoi tu parles. » Et là, Robert fut un peu interpellé. Alors, à sa grande honte, il réalisa qu'il n'avait jamais lu la Bible malgré ses hautes études. Et il commença à essayer de savoir où se trouvait une Bible. Et c'est là que le Seigneur est intervenu. Derrière le radiateur de son appartement, derrière un de ces radiateurs de cet appartement, Robert trouva un petit Nouveau Testament comme celui-ci, plein de poussière. Comment est-il venu jusque-là? Robert ne le sait pas. Peut-être il a été laissé par l'ancienne locataire, son nom blanc, donc une infirmière, une ancienne locataire qui était là avant lui, dans cet appartement. Robert trouva ce Nouveau Testament et commença à le lire. Je cite ces mots. « Le petit livre rouge de Mao Tse-tung a semé la révolution en Chine, mais ce petit livre des Gédéons a semé la révolution dans mon cœur. » Il s'agit, peut-être vous le connaissez, de Robert Rive, qui habite Dunkerque et qui maintenant a fondé des missions en Afrique. Pour terminer, je vous emmène au Pérou. Vous parlez de Guillermo Zapata, Un jour, Guillermo Zapata reçut un Nouveau Testament comme celui-ci à une école d'ingénieur. Et après l'avoir lu, il accepta le Seigneur Jésus dans son cœur. Et il décida, il trouva un emploi en tant qu'ingénieur du pétrole dans toute une petite ville, un petit village du Pérou, considéré comme le bastion de la sorcellerie. Et il n'y avait bien sûr aucune église. Guillermo s'installa donc ici. Il avait à cœur le salut des âmes. Alors il décida de planter un panneau devant sa maison où il était écrit « Ingénieur des mines, donne gratuitement des cours bibliques ». Malheureusement, personne n'est venu. Et puis un jour de pluie, dans sa maison commençait à prendre l'eau. L'eau s'infiltrait par le toit. Alors Guillermo ouvrit la porte d'entrée de sa maison et essaya d'évacuer toute l'eau qui rentrait à l'intérieur de cette maison, parce qu'il y avait une pluie torrentielle. C'est à ce moment-là qu'un chien tout crasseux rentra dans cette maison et allait savoir pourquoi, se dirigea vers la salle à manger et prit le Nouveau Testament qu'il avait reçu lorsqu'il était à l'école d'ingénieur. Il prit dans sa gueule ce chien, ce Nouveau Testament-là, et sortit. Guillermo Zapata, furieux, décida de courir, de rattraper ce Nouveau Testament qui lui était cher. C'était ce Nouveau Testament de conversion. Et il coura après ce chien sous la pluie. Mais ce chien est rentré dans la maison d'un des plus grands sorciers du village. Et là, Guillermo a dit, « Non, j'arrête. Je préfère abandonner mon Nouveau Testament que de rentrer dans ce lieu occulte. » Deux semaines plus tard, ce sorcier en question, Leoncio Guerrero, frappa à la porte de Guillermo Zapata et lui raconta une histoire bien étrange où un soir de pluie, un chien, je cite ces mots, « laid » est rentré dans ma maison et m'a apporté un petit livre comme celui-ci. Ce sorcier ouvrit ce livre et tomba sur les psaumes, le psaume 115 où il comprit un passage sur l'idolâtrie, où il comprit qu'il avait des choses à mettre en règle vis-à-vis de Dieu et il voulait avoir des cours bibliques pour être renseigné là-dessus. Aujourd'hui, Leoncio Guerrero a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur comme son sauveur, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car non seulement Leoncio Guerrero a été sauvé, mais il amena toute sa famille au Seigneur. Et aujourd'hui, dans ce petit village, il y a une église dont le pasteur est Guillermo Zapata. Alors, d'avance, merci pour votre soutien dans la prière. Merci, tout simplement, d'avoir eu la patience pour m'écouter. Merci à vous, Monsieur le pasteur, de m'avoir invité. Je me sens ici chez moi. Hein, la famille de Dieu est grande et je me tiendrai à votre disposition si vous avez plus de renseignements, si vous voulez. Voilà. Que Dieu vous bénisse.